Vous entrez maintenant dans la poche bleue. La formation de départ, the starting lineup. Le numéro 40, number 40, Maxime Lapierre. Le numéro 84, number 84, Guillaume Latendresse.
Yes, alors c'est comme ça tous les mercredis, désormais depuis quelques semaines déjà. Et salutations tout de suite à Guillaume. Bonsoir mon Guillaume.
Salut Mario, comment vas-tu?
Ça va très très bien. Et notre ami Maxime à Berlin, en direct. Bonsoir Maxime.
Salut Mario, comment ça va?
Ça va très bien toi-même?
Ça va super.
Good, good. Maxime, tu t'es prononcé sur le dossier des bagarres. On va en reparler un peu avec la ministre Charest tout à l'heure, mais Guillaume, on t'a pas entendu là-dessus. Avant de parler des autres dossiers, je voulais voir si tu avais sûrement une opinion là-dessus, toi qui étais impliqué en plus dans le Midget 3, qui a joué junior nécessairement. Qu'est-ce que tu penses de cette aide financière assortie à une réglementation plus sévère sur les bagarres? Juste ton opinion vite là-dessus.
On commence direct à soir, Mario.
Oui, monsieur.
Pas de préliminaire.
Pas de préliminaire.
Une chance, tu m'as demandé si j'allais bien.
Ça dépend des fois. Écoute, les minutes sont comptées, Guillaume.
Ah, OK, hey, c'est pour ça.
C'est comme dire une affaire, je joue le cadran, moi, là. Pareil comme piqué en fin de match.
Ah, c'est bon, j'aime ça. Non, mon opinion. mon opinion là-dessus, Mario. Moi, je suis pas contre l'abolition des bagarres. Je suis 100% pour. Je crois que c'est une bonne idée. Je crois pas que le gouvernement devrait mettre une pression, par contre. Au niveau de l'argent, je pense que c'est deux dossiers qui sont complètement différents. Que le gouvernement donne son opinion puis qu'il soit pour l'abolition des bagarres, j'ai aucun problème là-dessus, mais qu'on fasse menace par rapport à un budget ou une subvention qu'on a offrée, je trouve pas que c'est la bonne façon de faire. Par la suite aussi, ce que j'aimerais par contre, c'est qu'on se retrouve que, tu sais, oui, le hockey junior majeur du Québec, c'est une ligue dans une grande ligue. Il y a la Ligue canadienne de hockey, qui a la Ligue de l'Ouest, la Ligue de l'Ontario, la Ligue du Québec ensemble. Je nous vois mal au Québec être les précurseurs dans le domaine puis décider que nous, on abolit les bagarres puis 3 ans après, les gars s'en vont dans des camps professionnels. Ils se sont jamais battus puis les réglementations plus vieux, c'est pas les... Donc pour moi, j'aimerais ça que ça soit un règlement de la Ligue canadienne de hockey, non juste du junior majeur québécois. Je trouve que ça mettrait nos jeunes peut-être en danger, ceux qui auront l'opportunité de jouer dans le hockey professionnel dans les années qui suivront.
Maxime, tu trouves-tu que ton chum y a de bons arguments ou c'est pas les arguments qui te convainquent? Parce que j'allais dire, Guillaume, en réponse, puis je passe la parole à Maxime, dans NCAA, il n'y en a pas de bagarre, puis les gars, Makar n'a pas l'air d'être trop complexé dans la Ligue nationale, à titre d'exemple.
Ben écoute, je pense que Guillaume a raison là-dessus. Là, par contre, c'est que c'est sûr qu'il y a un petit désavantage juste au côté-là quand tu arrives au niveau du hockey professionnel. Si un gars joue dans l'Ouest ou en Ontario, puis il est habitué de se battre, puis arrive une situation où tu dois jeter les gants, peut-être que tu pars avec un désavantage. Cela étant dit, je pense que si la Ligue junior majeure du Québec fait le premier pas puis commence ça, je suis pas mal certain que les autres ligues vont suivre à un moment donné. Et pourquoi pas être les premiers, justement, à avoir cette idée-là puis à commencer ça pour protéger, justement, la santé des joueurs.
Guillaume, sinon qu'on mette une réglementation plus serrée, qu'on protège nos joueurs de cette façon-là. Tu sais, il y a peut-être des gestes qui sont dans un match qui méritent peut-être qui se règlent au niveau des points, mais il reste encore une fois, c'est des jeunes de 20 ans, c'est des gars qui sont pas encore à pleine maturité, c'est des jeunes qu'une commotion, la gravité devient bien plus grave qu'un adulte. Moi, puis comme je dis, Mario, je suis pour l'abolition des bagarres. C'est juste que j'aimerais ça juste qu'on soit tout le monde sur la même ligne. Puis t'as raison, dans la NCAA, il n'y a pas de combat, puis ça nuit pas, mais regarde le... Tu sais, je pense qu'il faut regarder le nom des joueurs peut-être qui proviennent de, tu sais, Makar, je pense pas que c'est dans son style de jeu. S'il fait un combat dans sa carrière, ça va être très, très bon. Mm-hmm. Mais oui, je suis d'accord qu'on dans le hockey d'aujourd'hui, on n'a plus besoin de bagarre pour rendre les choses intéressantes. Puis je pense, j'ai joué à Zurich, mon frère a fait une carrière d'11 ans en Europe, Max est en Europe, puis je pense pas que le spectacle est moins bon puis que c'est moins intéressant. Seule chose, par exemple, il faut vouloir être vraiment serré sur la réglementation au niveau des officiels. Faut s'assurer, puis peut-être aussi les coups de bâton, les coups par derrière, les coups à tête, que ces choses-là soient aussi, par exemple, réprimandées beaucoup plus grand que c'est en ce moment.
Ray Lalonde, qui sera avec nous un petit peu plus tard à l'émission, en parlait avec Paul Arcand un peu plus tôt ce matin, puis lui aussi, il est pour l'élimination des bagarres, une sanction plus sévère, mais il pense que le gouvernement n'a pas d'affaire à venir interférer dans les règles d'une ligue de hockey. Pour finir là-dessus, Maxime, une affaire que tu m'avais pas dit hier, c'est que, puis je m'en souvenais pas, en fait, c'est moi qui n'ai pas pensé de t'en parler, mais t'as façon de parler, lâcher les gants en Europe, ça n'existe pas vraiment. Les gars se battent souvent avec leurs gants dans les mains. Hein? Tu l'as fait. Hein?
Ouais, ben ça dépend des fois. Là, mais la plupart du temps, oui, ils se battent pas de gants. Mais ça arrive de temps en temps d'avoir un combat avec les gants, justement pour avoir une sanction un peu moins sévère durant le match. Mais c'est clair, là, surtout en Suisse, aussitôt que tu jettes tes gants, tu sors du match, puis ça coûte cher.
Mon premier séjour en Suisse, je pense le deuxième match, on s'en va jouer, je me souviens pas à quel endroit, puis là il y a un combat qui éclate, puis les deux gars gardent leurs gants comme dans le bon vieux temps, les casse-gants dans les chambres, tu sais, quand on était à tombe, puis oui, puis là je dis aux gars que pourquoi ils ont pas enlevé leurs gants, mais ils disent c'est parce que si t'enlèves pas tes gants, c'est juste 5 minutes puis t'as pas l'amende de 750$.
Maxime, t'en as une coupe d'amende, je pense.
Ouais, une coupe dans la même saison, ça a coûté cher au début en arrivant en Europe, mais j'ai modifié ça après, Tu sais quoi, Mario, justement, je me suis adapté au nouveau style d'hockey que j'avais à jouer. J'ai vu que j'avais pas besoin de parler autant, j'avais pas besoin de jeter mes gants de temps en temps, j'avais pas besoin de faire ça pour m'amuser, pour avoir un rôle dans l'équipe, puis ça faisait plus partie de la game. Je pense que les gars feraient la même chose dans le hockey junior. Puis je voulais rajouter une dernière chose sur le hockey, c'est que Guillaume est dans le Midget 3, puis il le voit lui-même. Il n'y a pas de bagarre dans le Midget 3. Est-ce que les coups sont plus salauds? Est-ce qu'il y a plus de mise en échec par derrière puis tout ça? Personnellement, je crois pas. Peut-être que Guillaume y aurait une opinion différente là-dessus.
Non, je pense pas qu'il y a plus de coups salauds ou moins parce qu'il y a des combats ou non, honnêtement. Je pense que ça vient juste avec la maturité, ces choses-là, tu sais. Mais est-ce qu'il y a des bagarres? Est-ce qu'il y a des, après coups de sifflet, ça se donne des coups de poing? Est-ce que oui, si on en voit? C'est vraiment... la ligne est mince entre... c'est quoi la limite? Vers où on va? Est-ce qu'abolir à 100% ou est-ce qu'une sanction vraiment que t'as pas le goût de te battre parce que tu perds un match, tu perds deux matchs? Mm-hmm. Est-ce que c'est vers ça qu'il faut s'en aller avant d'être vraiment drastique puis couper les combos complets? C'est quelque chose à réfléchir, mais je suis 100% en arrière de Ray Lalonde là-dessus. Le gouvernement devrait pas mettre pression. Il y a des équipes en ce moment qui manquent d'argent, qui sont dans le rouge, puis qui ont besoin de cette subvention-là pour être capable d'aider les jeunes à grandir comme être humain, comme personne, comme joueur de hockey, puis de menacer d'enlever cette subvention-là pour vouloir abolir les combats. Je pense pas que c'est le débat qu'on doit avoir en ce moment. Je suis d'accord avec l'abolition, mais je suis pas d'accord de la façon de faire du gouvernement. Qu'on donne la subvention et qu'on mette pression par la suite, puis qu'on s'assoit à une table, puis qu'on discute des pour et des contre des combats, puis je vais te dire qu'il y a plus de contre que de pour, puis la Ligue junior majeure du Québec devra emboîter le pas. Quand on voit des têtes d'affiche comme Patrick Roy puis des gars comme ça, prendre la parole, la Ligue n'aura pas le choix de suivre ses têtes d'affiche. Donc, le gouvernement devrait plutôt s'appuyer sur des Patrick Roy plutôt que de mettre en péril certaines organisations.
Excellent. Je vois que tu étais prêt, mon Guillaume, même si mon préambule était assez court. Merci. Maxime aussi, opinion intéressante. Juste un petit complément, Guillaume, puisque tu es avec Charlemagne dans une Jet 3A. Puis, bon, sport scolaire versus sport civil, là, bien vite là-dessus. Avez-vous bien des frustrations de ne pas pouvoir... Pouvez-vous jouer? Jusqu'à quel point vous pouvez jouer dans une Jet 3 vous attendez un feu vert, là?
Ben nous, on est à tous les jours, dans le fond, on attend le changement de la réglementation. Nous, au collège, on a eu deux cas de l'extérieur. Donc, dès qu'il y a un cas dans l'école, même si elle n'est pas reliée aucunement au sport-études, aux jeunes qui pratiquent le sport, on n'a pas le droit de jouer de match contre d'autres équipes pendant deux semaines. Donc, nous, on a eu un cas la semaine passée, puis on a eu un il y a deux jours, je crois.
Aurais-tu une question pour la ministre à qui je vais parler tout à l'heure? Vite, à brûle pour point comme ça, ou tu y penses d'ici la fin de notre
conversation? Je pense que la frustration est vraiment, tu sais, au niveau de la Ligue, au niveau des entraîneurs, au niveau de tout le monde, c'est d'essayer de comprendre le juste milieu entre on peut pas jouer, parfait, ça, j'ai pas de problème. Est-ce qu'on veut mettre la sécurité en avant-plan, mais on peut pas jouer, mais c'est un cas qui est même pas impliqué avec nos joueurs, c'est même pas un cas qui est en danger avec nos joueurs, puis tous les jeunes de l'école se retrouvent dans le hockey civil. Tu sais, mon gars est au collège Charlemagne, fait sport-études là-bas dans la journée avec sa classe bulle, puis le soir il s'en va jouer à Chambly avec du deux lettres. C'est juste l'incohérence un petit peu là-dedans.
Le même garçon est dans deux structures, exact. Mais dans une... Ah, ça c'est
exactement.
Intéressant.
Mais mon Midget 3, moi qui est dans une bulle tout seul, qu'il n'y a aucun cas près d'eux, on se retrouve qu'on n'a rien à faire. T'sais. On joue pas, puis on enlève notre élite l'opportunité. Puis, comme je dis, si c'est ça que ça prend pour protéger les jeunes, puis on pense que c'est ça la façon, moi, je vais appuyer le gouvernement là-dedans, et c'est eux autres qui ont les études, c'est eux autres qui... Mais au final, la question mérite d'être posée quand même, je pense, puis c'est le questionnement qu'on a au niveau de la Ligue ou des équipes.
Ben merci de ce point de vue que je vais partager, bien sûr, avec Mme la ministre Charest tout à l'heure. Les gars, je veux savoir c'est qui le meilleur joueur de la Ligue nationale de hockey. Je veux le savoir de la bouche de Maxime Lapierre et Guillaume Latendresse. Leon Draisaitl vient de gagner le Hart-Tilted-Lindsay. On pourrait dire donc c'est Draisaitl qui est le numéro un de la Ligue. Mettons donc, juste pour le plaisir de la conversation, question de faire cracher le morceau, on organise un autre tournoi qui commence la semaine prochaine, puis vous bâtissez votre équipe. Et moi, je veux savoir, donc, qui serait ton premier choix? Et juste pour un tournoi, donc là, j'ai pas un facteur. Ça peut être Shea Weber, ça peut être Chara, ça peut être Patrice Bergeron, comme ça peut être McDavid, parce que tu vas jouer 2 mois et demi, c'est dans ton tournoi, dans la discussion. Je tire à pile ou face, c'est lui qui est le premier choix. Max, pile ou face?
Pile.
OK. Fait que Guillaume, je t'annonce que t'as face. Hey, c'est pile, Maxime. Alors, qui serait le tout premier joueur dans la Ligue nationale que tu repêcherais pour jouer un tournoi qui commencera la semaine prochaine pour la Coupe Stanley?
Je vais y aller avec Nathan MacKinnon. Je pense que la façon qu'il a joué cette année, il a montré que ce gars-là est capable de dominer complètement un match à lui seul. Je pense que ce gars-là est capable de jouer physique, il est capable de travailler, il a du caractère. Tu vois qu'il est là pour gagner, ce joueur-là. J'ai rien contre Draisaitl, honnêtement, c'est un de mes joueurs favoris dans la Ligue nationale de hockey. Mais j'aime beaucoup plus le dynamisme de Nathan MacKinnon.
Ah, il est vraiment incroyable quand il se met à accélérer en zone adverse. Guillaume, est-ce que ça serait ton premier choix?
MacKinnon, c'est un très bon choix. Moi, quand on me demande qui je prendrais dans une équipe, je suis pas capable d'aller à côté de Sidney Crosby. Peu importe le tournoi, peu importe ce que c'est, je vais perdre en première ronde avec Sidney. J'aime mieux ça. Mais moi, c'est mon joueur. C'est le gars qui depuis des décennies maintenant domine la Ligue nationale.
Tu penses qu'il ferait gagner encore là cette année malgré ce qu'il a vécu avec Pittsburgh? Mais ça serait un nouveau club, évidemment. Donc tu le mettrais au centre de ton nouveau club parce que tu penses que c'est le gars qui aurait le plus d'impact encore.
Ouais, s'il y a pas d'âge, il y a rien. Puis Crosby est pour moi, c'est encore le meilleur joueur au monde. Puis c'est le joueur qui peut te faire remporter un championnat. Puis ce qu'on oublie dans un cours, tu sais, puis on regarde les équipes qui ont été sorties du tournoi rapidement quand même. C'est des équipes que dans les dernières années ont quand même eu du succès. Fait que peut-être qu'il y avait un peu moins faim que certaines autres organisations qui n'avaient pas eu la chance de gagner cette fameuse Coupe cette année-là.
Les gars, le dénominateur commun de vos deux choix, c'est que vous avez tous les deux choisi un attaquant, MacKinnon et Sidney Crosby. Et c'est souvent ces gars-là qui remportent les gros trophées, là, le Hart, tu sais, le championnat des compteurs, ou un gars qui a scoré, qui a marqué pas mal de points, même des fois quand son club est éliminé. Le Ted Lindsay, des fois, c'est différent. Mais pensez-vous qu'un attaquant aurait plus d'impact qu'un défenseur pour devenir l'élément clé comme entre Edman et tous ces gars-là? Là, je veux dire, pourquoi on penche toujours du côté de l'attaque alors qu'on dirait que c'est les défensives imperméables qui gagnent les championnats, Maxime?
Ben, c'est sûr que c'est souvent, d'après moi, relié un peu aux statistiques. Là. C'est tape à l'œil de voir un gars qui a 100 points, 110 points, 50 buts, des choses comme ça. Je suis d'accord avec toi, par exemple, Mario, qu'un défenseur comme Edman a un impact majeur dans un match de hockey. Mais je pense qu'un attaquant peut plus prendre contrôle du match à cause de la possession de rondelles. Veut pas une sortie de zone, ça se fait du défenseur à l'attaquant. Puis c'est la plupart du temps lui qui a la rondelle pour avoir le mot de la fin. C'est peut-être pour ça qu'on est plus attiré vers l'attaquant, mais on a prouvé avec l'histoire que ça prend au moins un grand défenseur pour être capable de gagner une Coupe Stanley.
Guillaume, as-tu quelque chose à rajouter là-dessus?
Ben, je suis d'accord avec Max, puis il dit que chaque fin de séquence est par un attaquant ou autre, mais chaque début de séquence aussi. Tu sais, l'attaquant qui va te remporter la mise en jeu va faire en sorte que tu prends contrôle de la rondelle directement en partant le chiffre, la présence, te donne l'opportunité d'être soit en zone offensive, soit en zone défensive, avoir une contre-attaque rapide. Tu sais, puis mon choix de Sidney Crosby vient exactement avec les arguments que Maxime a sortis. Tu sais, Sidney Crosby est aussi bon d'un côté de l'autre que la patinoire. C'est un gars justement avec un Edman ou même avec un défenseur peut-être, puis on l'a vu là. Pittsburgh a gagné la Coupe Stanley avec Ron Hainsey à défense. Là.
Mais oui.
C'est pas parce qu'il y avait la meilleure brigade défensive, c'est parce qu'il y avait des attaquants qui étaient capables de faire bien paraître les défenseurs, de venir en support très bas pour leur permettre une petite passe courte puis pas se mettre vulnérable. T'sais, je pense que l'attaquant peut faire mieux paraître le défenseur que l'inverse.
Ouais, t'es quasiment en train de
surtout un joueur de centre.
Ouais. Ouais, c'est bon. Vous êtes quasiment en train de me faire changer d'idée parce que, ben pas que j'étais cimenté dans mon idée, mais je me dis, tu sais, un défenseur qui joue 24, 28 minutes par match et c'est le gars capable de transporter la rondelle à la Makar, tu sais, c'est comme, tu peux, tu sais, c'est de l'or en barre dans une équipe, mais c'est vrai que vos arguments sont très bons.
Mais le défenseur, oui. Mario, que l'attaquant se replie pas ou le défenseur que le joueur de centre, le support, est pas bien positionné ou est pas, le défenseur seul, va avoir plus de misère à se démarquer qu'un attaquant ou un joueur de centre
puis ça va être moins dangereux en partant.
Exactement. Puis quand le joueur d'avant fait une erreur, il reste quand même trois gars en arrière de lui, les deux défenseurs puis le gardien. Tandis que le défenseur droit échappe le puck, c'est un échappé, puis il reste le gardien. Mm. Tu sais, fait que je pense aussi qu'on est protégé de ce côté-là, les attaquants, puis on est peut-être moins vulnérable à mal paraître.
On parlait des antidouleurs, un documentaire, un reportage a été diffusé à TSN là-dessus. On y voyait entre autres le témoignage de Ryan Kessler, qui est un jeune, tout jeune retraité. Tu as joué avec Maxime. Le phénomène des antidouleurs, t'étais-tu conscient que tu avais des coéquipiers, puis peut-être que toi-même, à un moment donné, tu as été tenté pour régler certains problèmes d'en consommer. As-tu des choses à nous partager là-dessus?
Bien, 100%. Je pense que ça fait partie de la game, ça en faisait partie. Ce sujet-là, je pense que ça va créer une grosse discussion. Là, on s'entend parce que il y a beaucoup d'angles, il y a beaucoup de façons de regarder la situation. Si on veut parler un peu vite de Ryan Kessler, je pense que c'est un gars qu'on sait très bien, jouait très dur à chaque match, se sacrifiait, bloquait beaucoup de lancers, était prêt à faire n'importe quoi pour son équipe. Puis ça parfois ça amène un dilemme qui est difficile, qui peut être dangereux. C'est que tu veux jamais abandonner ton équipe, tu veux faire tout ce qui est possible pour gagner, puis c'est là que tu prends la décision de prendre un antidouleur. J'en ai pris moi aussi. Je pense que je vais être honnête avec toi, je suis pas certain que je connais un joueur qui en a pas pris. On fait face souvent à une grosse décision qui est en tout cas, je vais parler pour moi-même. Par exemple, tu es un joueur de quatrième trio. Tu sais qu'il y a 20 gars qui peuvent prendre ta place au camp d'entraînement. Tu joues, tu as une grosse blessure. Tu prends un antidouleur. Tu sais que tu es capable de jouer ton match. Pareil, ça peut sauver ta saison. Ça peut sauver ton contrat. Ça peut sauver ta place dans la Ligue nationale. Pour ce qui est de moi, personnellement, c'est sûr et certain que j'aurais pris l'antidouleur pour sauver ma carrière. Maintenant, l'autre sujet, c'est la décision, comment le joueur analyse la décision. Moi, personnellement, je pense que sans avoir besoin d'un docteur ou du soigneur qui me dise les effets, je pense que je sais quand même d'une certaine façon, sans avoir aucune éducation de ce côté-là, que prendre un médicament, prendre quelque chose pour aider pour la douleur, c'est certain qu'il y a un effet un jour qui sera négatif.
Et de ce que j'entends, puis ça fait quand même des années que je jase avec du monde du hockey, quelques décennies de ça, je veux dire, c'est facilement accessible là, dans la chambre. Là. Sans mettre la faute sur le doigt à personne, là, un soigneur, là, je veux dire, peut t'offrir ça comme des Smarties en quelque sorte, ou j'exagère, les gars?
Ben moi, de mon côté, je pense que c'est le problème est peut-être là. T'sais, c'est de... Moi, j'ai pas de problème. T'sais, j'ai eu une fois une blessure où j'avais besoin d'avoir un... justement ce médicament-là pour essayer d'endurer la douleur pour être capable de performer le même soir. Pour un court temps, je pense que c'est correct, mais à partir du moment que c'est du long terme, faut faire attention à la facilité à peut-être avoir les produits. Je sais pas comment c'est dans la Ligue nationale aujourd'hui. Moi, j'ai jamais eu vraiment de problème de ce côté-là au niveau d'en revouloir puis de n'avoir besoin à long terme. T'sais, j'ai jamais eu de blessure comme Max, mettons, une opération à cheville ou une blessure à cheville que tu endures pendant un an puis que ça devient plus difficile. Puis moi, j'ai jamais vécu peut-être des choses comme ça. Là. J'avais une opération, ça durait 2-3 mois, j'avais une convalescence puis je revenais au jeu. Donc c'était moins épais, donc j'ai pas eu besoin de ça. Mais autant qu'on parle de ces pilules-là, ou les médicaments, les pilules pour dormir quand on est sur la route, qu'on voyage beaucoup, qu'on change de décalage horaire, ça aussi, c'était quelque chose qu'on voyait quand même, mais je pense que la Ligue nationale devrait faire attention à la facilité. Puis je suis d'accord avec Maxime. Tu sais, quand j'ouvre un pot, puis je sais ce qu'il y a dedans, puis je suis conscient que je peux tomber addict, bien, à quelque part, je dois faire attention, puis je dois être conscient des gestes que je pose quand je le prends le premier coup. Tu sais.
Le pot de médicaments, est-il à côté du plat d'orange, Maxime, d'une chambre? Je veux dire, tu sais, c'est-tu aussi... Non, mais tu comprends, j'essaie d'imager ça, là.
Non, c'est pas de cette façon-là non plus. Je pense que tu as quand même une discussion, savoir est-ce que tu es capable de jouer le match, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que tu es capable de rembarquer par exemple en deuxième période avec ce médicament-là. Il faut pas oublier non plus que, par exemple, personnellement, je savais c'était quoi l'effet de l'antidouleur. Je savais que je pouvais avoir la cheville presque cassée, puis si je le prenais, j'étais capable d'une certaine façon de finir mon match. Je l'ai fait, comme Guillaume vient de le mentionner, quand j'étais à Montréal, j'ai joué presque l'année avec une énorme douleur à la cheville. J'ai essayé les matchs que je pouvais de le faire sans antidouleur. Il y a des matchs où j'ai pris la pilule antidouleur pour finir parce que je savais que c'était une année importante pour moi, puis il fallait que je sois de l'alignement parce que je voulais pas perdre ma place.
Pas évident.
Et si tu me disais aujourd'hui, Est-ce que je continue ou pas de jouer? Je le referai de la même façon parce que j'aurais pas voulu perdre ma place dans l'alignement.
Hey, les gars, j'ai hâte de poursuivre la discussion. Je m'excuse, Guillaume, on doit aller à la pause.
Mais c'est cette année-là quand il y avait une cheville qui patinait aussi vite que moi.
Hey, David Bernier et Eric Gagné, vos invités tout à l'heure à la Poche Bleue, les gars. Bon podcast. Yes. On s'en parle demain, Guillaume. À bientôt. Salut. Max.